Lettres écrites d'Égypte et de Nubie en 1828 et 1829, écrites par Jean-François Champollion. Deuxième partie de 3 de la 12e lettre. Continuation de la description de Biban el-Molouk. Je parcourus avec empressement l'intérieur de l'ancienne ville d'Elétia, encore subsistante, ainsi que la seconde enceinte qui renfermait les temples et les édifices sacrés. Je n'y trouvais pas une seule colonne debout. Les barbares ont détruit depuis quelques mois ce qui restait des deux temples intérieurs et le temple entier situé hors de la ville. Il a fallu me contenter d'examiner une à une les pierres oubliées par les dévastateurs et sur lesquelles il restait quelques sculptures. J'espérais y trouver quelques débris de légendes, suffisants pour m'éclairer sur l'époque de la construction de ces édifices et sur les divinités auxquelles ils furent consacrés. J'ai été assez heureux dans cette recherche pour me convaincre pleinement que le temple d'Elitia, dédié à Sévec,
Saturne,
et à Sowan,
Lucine,
appartenait à diverses époques pharaoniques. Ceux que la ville renfermait avaient été construits et décorés sous le règne de la reine Amensé, sous celui de son fils Toutmosis III,
Moéris,
et sous les pharaons Amenophis, même nom, et Ramsès le Grand. Les rois Amirté et Akhoris, deux des derniers princes de race égyptienne, avaient réparé ces antiques édifices et y avaient ajouté quelques constructions nouvelles. Je n'ai rien trouvé à Elitia qui rappelle l'époque grecque ou romaine. Le temple à l'extérieur de la ville est dû au règne de Muéris. Les tombeaux ou hypogées creusés dans la chaîne arabique voisine de la ville remontent pour la plupart à une antiquité reculée. Le premier que nous avons visité est celui dont la commission d'Égypte a publié les bas-reliefs peints relatifs aux travaux agricoles, à la pêche et à la navigation. Ce tombeau a été creusé pour la famille d'un hiérogrammate nommé Phapé, attaché au collège des prêtres d'Elitia,
Sowan Ka.
J'ai fait dessiner plusieurs bas-reliefs inédits de ce tombeau, et j'ai pris copie de toutes les légendes des scènes agricoles et autres publiées assez négligemment. Ce tombeau est d'une très haute antiquité. Un second hypogée, celui d'un grand prêtre de la déesse Elitia ou Elitia,
Sowan,
la déesse éponyme de la ville de ce nom, porte la date du règne de Ramsès Meïamoun. Il présente une foule de détails de famille et quelques scènes d'agriculture en très mauvais état. J'y ai remarqué, entre autres faits, le foulage ou battage des gerbes de blé par les bœufs, et au-dessus de la scène, on lit, en hiéroglyphes presque tous phonétiques, la chanson que le conducteur du foulage est censé chanter. Car dans la vieille Égypte, comme dans celle d'aujourd'hui, tout se faisait en chantant, et chaque genre de travail a sa chanson particulière. Voici celle du battage des grains. En 5 lignes, sorte d'allocution adressée aux bœufs et que j'ai retrouvée ensuite, avec de très légères variantes, dans des tombeaux bien plus antiques encore. « Battez pour vous !»
bis.
« Aux bœufs, battez pour vous !»
bis.
« Des boisseaux pour vos maîtres !» La poésie n'en est pas très brillante. Probablement, l'air faisait passer la chanson. Du reste, elle est convenable à la circonstance dans laquelle on la chantait. et elle me paraîtrait déjà fort curieuse, quand même elle ne ferait que constater l'antiquité du bis, qui est écrit à la fin de la première et de la troisième ligne. J'aurais voulu en trouver la musique pour l'envoyer à notre respectable ami le général de la Salette. Elle lui aurait fourni quelques données de plus pour ses savantes recherches sur la musique des anciens. Le tombeau voisin de celui-ci est plus intéressant encore sous le rapport historique. C'était celui d'un nommé Amosis, fils de Obshné, chef des mariniers, ou plutôt des notonniers. C'était un grand personnage. J'ai copié dans son hypogée ce qui reste d'une inscription de plus de 30 colonnes, dans laquelle cet Amosis adresse la parole à tous les individus présents et futurs, et leur raconte son histoire que voici. Après avoir exposé qu'un de ses ancêtres tenait un rang distingué parmi les serviteurs d'un ancien roi de la 16e dynastie, il nous apprend qu'il est entré lui-même dans la carrière nautique dans les jours du roi Amosis, le dernier de la 17e dynastie légitime, qu'il est allé rejoindre le roi à Tanis, qu'il a pris part aux guerres de ce temps où il a servi sur l'eau, qu'il a ensuite combattu dans le Midi, où il a fait des prisonniers de sa main, que dans les guerres de l'an 6 du même pharaon, il a pris un riche butin sur les ennemis, qu'il a suivi le roi Amosis lorsqu'il est monté par eau en Éthiopie pour lui imposer des tributs, qu'il se distingua dans la guerre qui s'ensuivit, et qu'enfin il a commandé des bâtiments sous le roi Thoutmosis Ier. C'est là, sans aucun doute, le tombeau d'un de ces braves qui, sous le pharaon Amosis, ont presque achevé l'expulsion des pasteurs et délivré l'Égypte des barbares. Pour ne pas trop allonger l'article d'Elitia, je terminerai par l'indication d'un tombeau presque ruiné. Il m'a fait connaître 4 générations de grands personnages du pays qui l'ont gouverné sous le titre Souten-si de Soan, prince d'Elitia, durant les règnes des 5 premiers rois de la 18e dynastie, savoir Amenophte Ier, Amenophtep, Thoutmosis Ier, Thoutmosis II, Amensé, et Thoutmosis III, Mueris, auprès desquels ils tenaient un rang élevé dans leur service personnel, ainsi que dans celui des reines Amosis Atare et Amosis, femme des 2 premiers rois nommés, et de Ranofré, fille de la reine Amensé et sœur de Mueris. Tous ces personnages royaux sont successivement nommés dans les inscriptions de l'hypogée, et forment ainsi un supplément et une confirmation précieuse de la table d'Abydos. Le 3 mars, au matin, nous arrivâmes à Esné, où nous fûmes très gracieusement accueillis par Ibrahim Bey, le Mamour, ou gouverneur de la province. Avec son aide, il nous fut permis d'étudier le grand temple d'Esné, encombré de coton, et qui, servant de magasin général de cette production, a été crépi de limon du Nil, surtout à l'extérieur. On a également fermé avec des murs de boue l'intervalle qui existe entre le premier rang de colonnes du Pronaos, de sorte que notre travail a dû se faire souvent une chandelle à la main, ou avec le secours de nos échelles, afin de voir les bas-reliefs de plus près. Malgré tous ces obstacles, j'ai recueilli tout ce qu'il importait de savoir relativement à ce grand temple, sous les rapports mythologiques et historiques. Ce monument a été regardé, d'après de simples conjectures établies, sur une façon particulière d'interpréter le zodiaque du plafond, comme le plus ancien monument de l'Égypte. L'étude que j'en ai faite m'a pleinement convaincu que c'est, au contraire, le plus moderne de ceux qui existent encore en Égypte, car les bas-reliefs qui le décorent, et les hiéroglyphes surtout, sont d'un style tellement grossier et tourmenté qu'on y aperçoit au premier coup d'œil le point extrême de la décadence de l'art. Les inscriptions hiéroglyphiques ne confirment que trop cet aperçu. Les masses de ce pronaos ont été élevées sous l'empereur César Tiberius Claudius Germanicus, l'empereur Claude, dont la porte du pronaos offre la dédicace en grand hiéroglyphe. La corniche de la façade et le premier rang de colonnes ont été sculptés sous les empereurs Vespasien et Titus. La partie postérieure du pronaos porte les légendes des empereurs Antonin, Marc Aurèle et Commode. Quelques colonnes de l'intérieur du pronaos furent décorées de sculptures sous Trajan, Adrien et Antonin. Mais à l'exception de quelques bas-reliefs de l'époque de Domitien, tous ceux des parois de droite et de gauche du pronaos portent les images de Septime Sévère et de Geta, que son frère Caracalla eut la barbarie d'assassiner, en même temps qu'il fit proscrire son nom dans tout l'Empire. Il paraît que cette proscription du tyran fut exécutée à la lettre jusqu'au fond de la Thébaïde, car les cartouches non propres de l'empereur Geta sont tous martelés avec soin. Mais ils ne l'ont pas été au point de m'empêcher de lire très clairement le nom de ce malheureux prince, l'empereur César Geta, le directeur. Je crois que l'on connaît déjà des inscriptions latines ou grecques dans lesquelles ce nom est martelé. Voilà des légendes hiéroglyphiques à ajouter à cette série. Ainsi donc, l'antiquité du pronaos d'Esné est incontestablement fixée. Sa construction ne remonte pas au-delà de l'empereur Claude. Et ses sculptures descendent jusqu'à Caracalla. Et du nombre de celles-ci est le fameux zodiaque dont on a tant parlé. Ce qui reste du naos, c'est-à-dire le mur du fond du pronaos, est de l'époque de Ptolémée Épiphane, et cela encore est d'hier comparativement à ce qu'on croyait. Les fouilles que nous avons faites derrière le pronaos nous ont convaincus que le temple proprement dit a été rasé jusqu'au fondement. Cependant, que les amis de l'Antiquité des monuments de l'Égypte se consolent, l'Atopolis, ou plutôt Esné, car ce nom se lit en hiéroglyphe sur toutes les colonnes et sur tous les bas-reliefs du temple, n'était point un village aux grandes époques pharaoniques. C'était une ville importante, ornée de beaux monuments, et j'en ai découvert la preuve dans l'inscription des colonnes du pronaos. J'ai trouvé sur deux de ces colonnes, dont le fût est presque entièrement couvert d'inscriptions hiéroglyphiques disposées verticalement, la notice des fêtes qu'on célébrait annuellement dans le grand temple d'Esné. Une d'elles se rapportait à la commémoration de la dédicace de l'ancien temple faite par le roi Thoutmôsis III, Meurice. De plus, il existe, et j'ai dessiné dans une petite rue d'Esné, au quartier de Cheikh Mohamed Ebbedri, un jambage de porte en très beau granit rose portant une dédicace du pharaon Thoutmôsis II. Et provenant sans doute d'un des vieux monuments de l'Esné pharaonique. J'ai aussi trouvé à Edfou une pierre qui est le seul débris connu du temple qui existait dans cette ville avant le temple actuel bâti sous les Lagides. L'ancien était encore de Moéris et dédié, comme le nouveau, au grand dieu Harhat, seigneur d'Atfou. Edfou. C'est donc Thoutmôsis III, Moéris, qui en Thébaïde, comme en Nubie, avait construit la plupart des édifices sacrés après l'invasion des Hyksos. De la même manière que les Ptolémées ont rebâti ceux d'Ombos, d'Esné et d'Edfou pour remplacer les temples primitifs détruits pendant l'invasion persane. Le grand temple d'Esné était dédié à l'une des plus grandes formes de la divinité, à Shnoufis, qualifié des titres Neventosné, seigneur du pays d'Esné, créateur de l'univers, principe vital des essences divines, soutien de tous les mondes, etc. À ce dieu sont associés la déesse Néite, représentée sous des formes diverses et sous les noms variés de Menhi, Tnebuaou, etc. Et le jeune Hak, représenté sous la forme d'un enfant, ce qui complète la triade adorée à Esné. J'ai ramassé une foule de détails très curieux sur les attributions de ces trois personnages auxquels étaient consacrées les principales fêtes et panégyries célébrées annuellement à Esné. Le 23 du mois d'Atir, on célébrait la fête de la déesse Tnebuaou. Celle de la déesse Menhi avait lieu le 25 du même mois. Le 30, celle d'Isis, tertiaire des deux déesses précitées. Le 1er de Choïac, on tenait une panégyrie, assemblée religieuse, en l'honneur du jeune dieu Hak, et ce même jour avait lieu la panégyrie de Shnoufis. Voici l'article du calendrier sacré sculpté sur l'une des colonnes du Pronaos. À la Néoménie de Choïac, panégyrie et offrande faite dans le temple de Shnoufis, seigneur d'Esné, on étale tous les ornements sacrés, on offre des pains, du vin et autres liqueurs, des bœufs et des oies, on présente des collyres et des parfums au dieu Shnoufis et à la déesse sa compagne. Ensuite, le lait à Shnoufis. Quant aux autres dieux du temple, on offre une oie à la déesse Meni, une oie à la déesse Néite, une oie à Osiris, une oie à Khons et à Thoth, une oie aux dieux Fré, Atmou, Toré, ainsi qu'aux autres dieux adorés dans le temple. On présente ensuite des semences, des fleurs et des épis de blé au seigneur Shnoufis, souverain d'Esné, et on l'invoque en ces termes, etc. Suit la prière prononcée en cette occasion solennelle et que j'ai copiée parce qu'elle présente un grand intérêt mythologique. C'est aux mêmes divinités qu'était dédié le temple situé au nord d'Esné, dans une magnifique plaine, jadis cultivés, mais aujourd'hui hérissés de broussailles qui nous déchirèrent les jambes lorsque, le 6 mars au soir, nous allâmes le visiter. En faisant à pied une très longue course du Nil aux ruines, que nous trouvâmes tout nouvellement dévasté. Ce temple n'est plus tel que la commission d'Égypte l'a laissé. Il n'en subsiste plus qu'une seule colonne, un petit pan de mur et le soubassement presque à fleur de terre. Parmi les bas-reliefs subsistants, j'en ai trouvé un, des Vergètes Ier et de Bérénice, sa femme. J'ai reconnu les légendes de Philopator sur la colonne, celle d'Adrien sur une partie d'architrave, et sur une autre, en hiéroglyphes tout à fait barbares, les noms des empereurs Antonin et Verus. Le hasard m'a fait découvrir dans le soubassement extérieur de la partie gauche du temple une série de captifs représentant des peuples vaincus
par Évergète Ier, selon toute apparence.
Et à l'aide des ongles de nos Arabes, qui fouillèrent vaillamment malgré les pierres et les plantes épineuses, je parvins à copier une dizaine des inscriptions onomastiques de peuples gravées sur l'espèce de bouclier attaché à la poitrine des vaincus. Parmi les nations que le vainqueur se vante d'avoir subjuguées, j'ai lu les noms de l'Arménie, de la Perse, de la Thrace et de la Macédoine. Peut-être encore s'agit-il des victoires d'un empereur romain. Je n'ai rien trouvé d'assez conservé aux environs pour éclaircir ce doute. Le 7 mars au matin, nous fîmes une course pédestre dans l'intérieur des terres pour voir ce qui restait encore des ruines de la vieille Toufioum, aujourd'hui Taoud, située sur la rive droite du fleuve, mais dans le voisinage de la chaîne arabique et tout près d'Hermontis, qui est sur la rive opposée. Là existent deux ou trois salles d'un petit temple habité par des fellahs ou par leurs bestiaux. Dans la plus grande subsistent encore quelques bas-reliefs qui m'ont donné le mythe du temple. On y adorait la triade formée de Mandou, de la déesse Ritho et de leur fils Harfré, celle même du temple d'Hermontis,
capitale du Nome,
auquel appartenait la ville de Toufioum. À midi, nous étions à Hermontis, dont j'ai parlé dans la lettre que j'écrivis après avoir visité ce lieu lorsque nous remontions le Nil pour aller à la seconde cataracte. Nous y passâmes encore quelques heures pour copier quelques bas-reliefs et des légendes hiéroglyphiques qui devaient compléter notre travail sur Hermante, commencé à notre premier passage au mois de novembre dernier. Ce temple n'est encore qu'un Mamissi ou Eimissi, consacré à l'accouchement de la déesse Ritho, construit et sculpté, comme le prouvent tous ces bas-reliefs, en commémoration de la reine Cléopâtre, fille d'Aulétès, lorsqu'elle mit au monde Césarion, fils de Jules César, lequel voulut être le Mandou de la nouvelle déesse Ritho, comme Césarion en fut l'Arfré. Du reste, c'était assez l'usage du dictateur romain de chercher à compléter la triade lorsqu'il rencontrait surtout des reines qui, comme Cléopâtre, avaient en elles quelque chose de divin, sans dédaigner pour cela les joies terrestres. Une courte distance nous séparait de Thèbes, et nos cœurs étaient gros de revoir ces ruines imposantes. Nos estomacs se mettaient aussi de la partie, puisqu'on parlait d'une barque de provisions fraîches. Arrivé à Louxor, à mon adresse. C'était encore une courtoisie de notre digne consul général, M. Drovetti, et nous avions hâte d'en profiter. Mais un vent du nord, d'une violence extrême, nous arrêta pendant la nuit entre Hermontis et Thèbes, où nous ne fûmes rendus que le lendemain matin 8 mars, d'assez bonne heure. Notre petite escadre aborda au pied du quai antique déchaussé par le Nil et qui ne pourra longtemps encore défendre le palais de Louxor, dont les dernières colonnes touchent presque au bord du fleuve. Ce quai est évidemment de deux époques, le quai égyptien primitif étant grande brique cuite, liée par un ciment d'une dureté extrême, et ces ruines forment d'énormes blocs de 15 à 18 pieds de large et de 25 à 30 de longueur, semblables à des rochers inclinés sur le fleuve au milieu duquel ils s'avancent. Le quai en pierre de grès est d'une époque très postérieure. J'y ai remarqué des pierres portant encore des fragments de sculptures du style des bâtons et provenant d'édifices démolis. Notre travail sur Luxor a été terminé,
à très peu près,
avant de venir nous établir ici, à Biban El Moulouk, et je suis en état de donner tous les détails nécessaires sur l'époque de la construction de toutes les parties qui composent ce grand édifice. Fin de la deuxième partie de 3, de la 12e lettre, ainsi que du 10e fichier des lettres écrites d'Égypte et de Nubie en 1828 et 1829 par Jean-François Champollion.